VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 22 mai 2020. Bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui. À la une de l'actualité ce soir. Et cette triste nouvelle. L'Afrique perd un autre de ses monstres sacrés de la musique. Le chanteur guinéen Mori Kanté est mort à 70 ans. L'immortel tube planétaire Yékéyéké de Mori Kanté, le griot électrique, hommage à venir dans la partie magazine.
Tu es mon premier amour, tu es juste ce que je voulais. Je t'aime et toi Yékéyéké, chantait ainsi Mori Kanté dans sa langue, le Malinké.
Autre titre, au Burundi, le candidat Agathon Rwasa rejette les premiers résultats partiels qui accordent au candidat du pouvoir une victoire écrasante à la présidentielle. Le point également sur le coronavirus, le continent africain a franchi la barre symbolique des 100 000 cas. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport d'environ 10 minutes. Une légende de la musique africaine s'est éteinte ce vendredi. Mori Kanté, chanteur et musicien guinéen, a été emporté par une longue maladie à l'âge de 70 ans. Évocation de sa vie et son œuvre avec Mohamedou Oumfa.
Mori Kanté n'est plus. Selon son fils Bala Kanté, il s'en est allé ce vendredi 22 mai dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie à l'âge de 70 ans. Le président Alpha Condé lui a rendu hommage sur Twitter, saluant un artiste au parcours exceptionnel, exemplaire, une fierté. Né le 9 mars 1950 à Albadaria en Guinée, Mori Kanté démarre sa carrière dès son adolescence. Au début des années 70, il intègre le fameux Rel Band de Bamako au Mali dont Salif Keita était le chanteur. Issu d'une grande famille de griots, il va propulser la musique traditionnelle mandingue sur la scène mondiale. Après avoir vécu dans plusieurs pays, au Mali, en Côte d'Ivoire, le maître de la koura, instrument traditionnel à cordes, va connaître la gloire internationale avec la chanson Yékéyéké, sortie en 1987 et devenue un succès planétaire. Mori Kanté s'en va après d'autres icônes de la musique africaine comme Manu Dibango, Tony Allen cette année. Adieu l'artiste.
Hommage et réaction tout à l'heure dans la Tranche Magazine. Au Burundi, le chef de l'opposition, Agathon Rwasa, a qualifié de fantaisiste les résultats partiels des élections générales de mercredi dernier, portant sur 12% des 119 communes et qui accordent une victoire écrasante au candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Nathalie Barge.
L'opposant Agathon Rwasa a rejeté hier soir ces résultats partiels qui, selon lui, ne collent pas avec la réalité. Lorsqu'on a commencé à faire le comptage des voix, on a suivi. On était en tête et les résultats que nous avons démontrent que nous sommes toujours en tête, a-t-il déclaré. Qualifiant de pure manipulation les chiffres annoncés hier soir par la télévision nationale, le chef de l'opposition affirme avoir gagné. Ces résultats partiels donnent aux candidats du parti au pouvoir CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, 73,9% contre 24,6% à Agathon Rwasa à Kabezi, dans le Bujumbura rural, considéré comme un fief historique du leader de l'opposition.
Il était l'un des principaux fugitifs poursuivis par la justice internationale pour le génocide au Rwanda. Augustin Bizimana est décédé il y a près de 20 ans. C'est ce qu'a révélé ce vendredi un tribunal de l'ONU, moins d'une semaine après l'arrestation de Félicien Kabuga, un autre suspect majeur. Ex-ministre de la Défense, Augustin Bizimana, était accusé d'avoir été l'un des hauts commanditaires du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda et qui a coûté la vie à 800 000 personnes. Son décès, dont la date est estimée à août 2000, a pu être confirmé après l'identification des restes de son corps retrouvés dans un cimetière à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. En République démocratique du Congo, deux policiers ont été tués par des habitants en colère contre l'insécurité lors de deux épisodes d'affrontements distincts à Bukavu et Lubumbashi. D'après des témoins à Bukavu, l'agent a été tabassé à mort par des jeunes après avoir lui-même tué par balle à bout portant un taxi-moto. Le poste de police de la localité a été incendié par les manifestants. À Lubumbashi, l'autre policier a été tué ce matin par des habitants en colère après la mort d'un commerçant victime de bandits à main armée la nuit dernière. Par ailleurs, à Beni, dans la province du Nord Kivu, 27 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement ont été libérés ce vendredi au lendemain de leur interpellation en marge d'une manifestation toujours contre l'insécurité ayant fait un mort. En Algérie, 15 opposants ont été condamnés depuis mardi à des peines de prison ferme, dont 3 pour leur publication sur les réseaux sociaux. Claire Morin-Gibourg.
Les condamnations des militants du Irak s'enchaînent. 1 an de prison ferme pour Soeb Debaghi, 18 mois pour l'arbitre et Boussif Mohamed Boudiaf. Selon leurs avocats, l'arbitre était accusé d'outrage au président de la République pour des messages publics dans lesquels il qualifiait Abdelmadjid Tebboune de président illégitime. Quant à M. Boudiaf, il a dénoncé l'injustice du système judiciaire sur Facebook. 12 autres militants du mouvement Irak ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 mois de prison ferme à Chlef, dans l'ouest du pays. Ils étaient poursuivis pour atteinte à l'intégrité, à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. La pandémie de Covid-19 a contraint le mouvement à suspendre ses manifestations contre le régime.
Des ONG de défense des droits humains au Zimbabwe accusent les forces de sécurité de près de 250 cas de violence depuis le début du confinement imposé à la population pour enrayer la pandémie de coronavirus. La responsable de leur coalition, Justina Mukoko, s'est déclarée horrifiée et scandalisée et a appelé le ministre de l'Intérieur et le chef de la police à faire la lumière sur ces abus. Plus de 100 000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Afrique, un seuil symbolique mais qui ne reflète qu'une fraction de la réalité, d'après les autorités, par manque de capacité de dépistage dans de nombreux pays. Au total, 3 095 décès ont été enregistrés, alors que 39 070 personnes sont considérées comme guéries. Le président Donald Trump a appelé ce vendredi les gouverneurs des États américains à autoriser la réouverture des lieux de culte malgré l'épidémie de coronavirus. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aujourd'hui, il dit considérer les lieux de culte comme les églises, les synagogues et les mosquées être des lieux essentiels qui prodiguent des services indispensables. Le président Trump ajoute qu'il pourrait passer outre la décision des gouverneurs pour cette réouverture si ces derniers ne la décidaient pas, sans toutefois préciser et comment il s'y prendrait.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 333 000 morts dans le monde, avec plus de 5 100 000 cas d'infection. L'Europe continue d'avancer sur la voie d'une lente normalisation avec précaution. Eric Manirakiza.
Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant de l'étranger. De rares exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers, les personnels médicaux et les Irlandais. En France, le week-end ensoleillé de l'Ascension passé sur la plage ou dans les parcs alimente les craintes d'une nouvelle vague. La Grèce a annoncé le prolongement du confinement des camps de migrants jusqu'au 7 juin. Aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux de vendredi à dimanche pour honorer la mémoire des victimes. En Amérique latine, le Covid-19 poursuit sa progression. Au Brésil, le nombre de morts a doublé en seulement 11 jours. Au Pérou voisin, la plupart des hôpitaux de Lima sont au bord de la rupture. Au Chili, où les décès ont augmenté de 29% en 24 heures, des habitants ont bravé le confinement pour manifester et réclamer des aides alimentaires. La Chine a proclamé vendredi sa victoire sur le nouveau coronavirus.
Au moins 110 personnes ont péri en Inde et au Bangladesh au cours du cyclone Amphan, d'après un bilan toujours provisoire. Malgré les dégâts considérables causés par ce puissant cyclone dans les deux pays, les pertes de vies humaines ont été largement contenues. Jusqu'à une époque récente, les cyclones les plus violents faisaient parfois des milliers de morts dans cette région du monde. Au Pakistan, un avion de ligne avec une centaine de personnes à bord s'est écrasé ce vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, dans le sud du pays. Il y avait 91 personnes et 7 membres d'équipage à bord de l'appareil de la compagnie Pakistan International Airlines. Le porte-parole de la compagnie affirme qu'il est trop tôt pour commenter les causes du crash. Le vol venait de Lahore, la deuxième ville du pays. Des militaires ont été dépêchés sur le lieu de l'accident pour des opérations de secours. Le Premier ministre Imran Khan s'est dit choqué et attristé par la catastrophe. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Banque mondiale a indiqué ce vendredi que ses opérations d'urgence en réponse à la pandémie de Covid-19 concernent 100 pays en développement qui représentent 70% de la population mondiale. Cette assistance s'inscrit dans l'engagement pris par l'institution de débloquer 160 milliards de dollars sur une période de 15 mois pour la riposte de ces pays face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales de la crise du coronavirus. L'Association internationale pour le développement a par ailleurs accordé un financement additionnel de 445 millions de dollars en faveur du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. Le Step 2 devrait permettre notamment la construction et le maintien de 2000 infrastructures de base, dont 500 écoles. Le projet initial a permis de réhabiliter 850 infrastructures et a doté 45 000 ménages de technologies agropastorales. L'Égypte a accepté de reprendre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie sur le remplissage du barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba construit sur le Nil. Le pays est toujours prêt à parvenir à un accord juste, équilibré et global, a déclaré le ministère des Affaires étrangères égyptien, soulignant que l'accord devra prendre en compte les intérêts des trois pays sur la question de l'eau.
Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour la page sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Coupe de Tunisie, arrêtée au stade des quarts de finale à cause du nouveau coronavirus, ira jusqu'à son terme. Amine Moungou, membre de la Fédération tunisienne de football, précise à l'agence Tunis Afrique Press que la fédération est décidée à aller jusqu'au bout de cette compétition. Avant lui, Wadi Jari, président de la fédération, a affirmé que la finale de cette compétition pourrait avoir lieu au début de l'année 2021, préférant accorder la priorité à la Supercoupe de Tunisie entre l'Espérance sportive de Tunis et le club sportif sfaxien pour conclure la saison actuelle. En Allemagne, le chef d'orchestre du milieu de terrain du Bayern Munich, Thiago, souffre des adducteurs et est très incertain pour le match de la 27e journée, demain à domicile contre Francfort. Le Bayern est en tête du classement avec 4 points d'avance sur Dortmund. Francfort, battu à domicile 3 buts à 1 par Mönchengladbach pour la reprise samedi dernier, est 13e avec juste 5 points de marge sur le premier relégable. Il s'agira ce week-end de la deuxième journée de Bundesliga. Depuis la reprise après la pause due au coronavirus, tous les matchs sont à huis clos et encadrés par un protocole sanitaire. En Angleterre, Manchester United a publié des résultats pour le troisième trimestre 2019-2020, affecté par le coronavirus, avec notamment 16,7 millions d'euros de manque à gagner sur les droits télé, soit une baisse de 51,7% par rapport à l'année précédente. Le directeur financier du club, Cliff Batty, chiffre à 25,6 millions d'euros l'impact total de la pandémie sur le chiffre d'affaires du club depuis qu'elle a mis le football anglais à l'arrêt le 13 mars. Il dit s'attendre à ce que les matchs puissent reprendre en juin et que la totalité des compétitions de la saison, y compris européenne, puisse être achevée fin août. La Première Ligue a autorisé la reprise des entraînements en petits groupes et travaille pour reprendre la compétition dans la seconde moitié de juin. Ici aux États-Unis, une vente aux enchères d'objets et d'effets personnels de la légende des Lakers, Kobe Bryant, a généré plus de 202 000 dollars, soit 8 fois plus que les estimations selon la maison Julian Auction. Ce sont les empreintes de main de Bryant dans une plaque en béton ayant servi de test avant qu'elle ne soit immortalisée en 2011 à Los Angeles et qui ont rapporté le plus avec 75 000 dollars. Le quintuple champion NBA est le premier athlète à figurer aux côtés des stars de cinéma, de la musique et de la télévision sur ce célèbre site de Hollywood Boulevard. Autre enchère spectaculaire, sa tenue complète portée lors des finales NBA 99-2000 avec le logo officiel de la NBA a plus que quadruplé son estimation en se vendant à plus de $43,750. Kobe Bryant et sa fille Diana et sept autres personnes, on le rappelle, sont décédés accidentellement en janvier dernier dans un crash d'hélicoptère.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Il était connu pour le tube planétaire Yeke Yeke dans les années 1980. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry. D'après son fils, il souffrait de maladies chroniques et voyageait souvent en France pour des soins. Mais avec le coronavirus, dit-il, ce n'était plus possible. Mori Kanté, surnommé le griot électrique, a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. Pour revenir sur la vie et l'œuvre de Mori Kanté, Bagassi Koura s'est entretenu avec le musicien Cheikh Tidiane Sek, auteur et compositeur malien qui a travaillé longtemps avec Mori Kanté.
Je suis inconsolable dans la mesure où c'est une de mes protégées, Mamani Keita, qui m'a annoncé la nouvelle. J'étais dans un état que je ne pouvais pas décrire parce que j'en ai pleuré toutes mes larmes. Et parce que je me suis souvenu de nos premières rencontres au buffet hôtel de la gare de Bamako. Nous avons vécu des bons moments. Et après lui et moi, nous avons fait l'aventure ivoirienne aussi, où j'ai joué avec lui. C'était vraiment plus qu'un collègue et un compagnon de musique, j'étais un ami. C'était la voix aussi du Sultanat Ibane de Bamako. Et puis, chaque édition de la Nuit du Mali qui s'est déroulée ici, j'ai tenu symboliquement à ce qu'il soit là. Et il est venu, il avait dédié un bel hymne au Mali. Et on préparait justement le retour de Raïban au buffet hôtel de la gare. Justement, j'en ai parlé il y a 3 ou 4 mois seulement avec lui. Il m'a dit tout ça. Après, l'aventure ivoirienne est venue ici, il a fait un hit, comme on appelle, un succès, Yeke Yeke, qui a fait le tour de la planète, meilleure vente européenne. Pas plus tard que le mois dernier, on se parlait encore.
Et qu'est-ce qui faisait sa force?
Sa force, c'était sa voix, sa courage, et aussi le fait que c'était quelqu'un d'agréable à vivre. Il était toujours créatif, toujours curieux de quelque chose. S'il ne veut pas prendre un balafon pour essayer de trouver une mélodie, ou bien il a une guitare en main, ou bien il a sa kora. C'est avec lui, et je me souviens entre autres, dans mes périples, que par moments, je me reconvertissais en joueur de Dundumba dans certaines de ses tournées dans le sud de la France. Malgré le succès de Yeke Yeke, on arrivait à faire des formations acoustiques ensemble.
Il avait beaucoup vécu au Mali, hein, et souvent les gens même se demandent s'il n'est pas plus malien que guinéen.
Je sais pas parce qu'il il a dit de 2015-2016, j'ai remonté le Raïban et les ambassadeurs avec Salif. Et il avait joué juste avant nous, et avant de jouer, Mori a fait un long discours en disant « Je vais jouer pour mon pays, je vais jouer pour mon peuple ». Et tout le monde s'attendait à ce qu'il dise la Guinée. Il a dit, le pays qui a fait de moi Mori Kanté, le Mali. Bakar, Mme Bakamisobo, sa tante, qui a été chanteuse de l'ensemble instrumental du Mali, et la femme de Flani, c'est Mme Bak qui a amené Mori à l'âge de 12 ans au Mali. Mori a grandi là-bas. Voilà, donc, Mori, comme Manfila Kanté, est un grand parfum du Mali.
Le musicien Cheikh Tidiane Sek, auteur et compositeur malien qui vit entre la France et le Mali. Tédiké, sorti en 1987, s'est vendu à des millions d'exemplaires et a atteint les sommets des hit-parades dans de nombreux pays. Né dans une célèbre famille de griots, poète, conteur, musicien, dépositaire de la culture orale en Afrique, Mori Kanté fut l'un des premiers musiciens avec le malien Salif Keïta à diffuser la musique mandingue loin de ses frontières. La culture africaine est en deuil, a tweeté le président guinéen Alpha Condé. Merci l'artiste, un parcours exceptionnel, exemplaire, une fierté, écrit-il encore. Les hommages en Guinée avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est le titre qui le rend célèbre. Yékéké, une chanson d'amour, devient planétaire après sa sortie en 1988. Tu es mon premier amour, tu es juste ce que je voulais. Je t'aime et toi Yékéké, chantait ainsi Mori Kanté dans sa langue, le malinké. Yékéké, extrait de l'album Aquaba Beach, le troisième de l'auteur, compositeur guinéen et produit par Barclay Records, est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Le tube fait l'objet de nombreuses adaptations et reprises en hébreu, en arabe, en chinois, en hindi, en portugais, en anglais, mais aussi en espagnol. Mori Kanté est né à Albadaria, un petit village du sud de la Guinée. Ses deux parents sont tous les deux griots. Le destin de l'enfant est donc tout naturellement de devenir djeli, c'est-à-dire griot. À 7 ans, il arrive à Bamako pour y apprendre chant et balafon. En 1971, Kanté intègre l'orchestre Le Raïban de Bamako, dont le chanteur n'est autre que Salif Keïta. En 1978, le griot Mori s'installe à Abidjan et met la koura au centre de son travail. Mais c'est à Los Angeles, sur le label Ebony du noir américain Gérard, que Mori Kanté enregistre son premier disque, Kourou Nye Nye, en 1981. Avec Yékéké, Mori Kanté devient l'artiste africain le plus vendu à travers le monde. En juillet 1988, le tube atteint la première place du classement pan-européen. Disque d'or de la même année, le griot électrique est récompensé à Paris par les victoires de la musique du meilleur album francophone. Mori Kanté, une tête couronnée, laisse un héritage immense. Il est mort à l'âge de 70 ans. Le président Alpha Condé parle d'un artiste au parcours exceptionnel, exemplaire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En République démocratique du Congo, le seigneur de guerre Maréché Simba Wankutu vient de déposer les armes avec une centaine de ses combattants. L'opération de reddition s'est déroulée à Kishadou, en territoire de Walungu, en présence de la MONUSCO, la force onusienne, à travers le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le point avec notre correspondant au Sud-TV, Ernest Mouhiro.
C'est dans une ambiance des chansons et des pas de danse qu'une centaine des combattants de l'état-major du groupe Mai Mai Molangane pour la défense du peuple ont célébré la fin de leur lutte armée dans le maquis depuis plus d'une décennie. C'est suite à une décision de leur chef, le général autoproclamé Maéche Simba Wankutu, qui a été approché par la MONUSCO. Il vient de faire allégeance au FARDC et appelle ses éléments à faire un choix entre la vie civile ou l'armée loyaliste.
J'ai posé ce geste et je vous demande tous de suivre mon exemple. Vous allez le faire. Ceux qui sont encore en forêt et ne veulent pas se désarmer, ils auront affaire au gouvernement.
Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité au Sud Kivu a fait les déplacements pour prendre acte de cette reddition. Luabandi Luasingabu.
Le gouvernement provincial est grandement satisfait de voir que des fils de la province ont décidé de répondre à l'invitation du chef de l'État, le président Tshisekedi, qui a souhaité que tous les compatriotes qui sont dans les groupes armés déposent les armes et se consacrent désormais au développement du pays. D'autant plus que, comme vous le savez ici, la population a beaucoup souffert des affres de la guerre, des femmes ont été violées régulièrement. régulièrement ici. Des situations de pillage ont été multiples et déplorées. Nous pensons qu'un nouvel espoir est permis à partir d'aujourd'hui. Mais nous savons qu'il y a un travail à faire. Il faut les accompagner pour qu'ils ne rentrent pas en brousse.
120 combattants, dont 10 femmes, ont déposé les armes et reçoivent un kit pour le début du processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. 20 armes, dont 17 individuelles et 3 d'appui, plus 2000 munitions ont été rendues. Karna Soro, chef des bureaux de la MONUSCO au Sud Kivu, et Maniema.
Le message fort, c'est celui que la représentante spéciale a toujours véhiculé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun avenir dans la forêt, dans les brousses. Il faut que tout le monde sorte et qu'ensemble, on travaille avec le gouvernement congolais pour relever ce pays. Et pour le moment, nous avons les combattants aujourd'hui, donc, que nous avons désarmés. Et ils vont être reversés dans un programme de réinsertion, réintégration communautaire, où à travers des projets, ils seront pris en charge dans leur communauté.
Les leaders de la chefferie d'Ingouchie, Mouamina Tabaye Ouedra III, saluent ces gestes et appellent le gouvernement à vite déployer les forces loyalistes dans les zones occupées jadis pour que d'autres forces rivales ne s'en prennent pas à la population.
Pour nous, c'est un grand jour. Les brebis égarées, ils sont revenus en droit chemin dans les phares d'essai.
La cérémonie d'érudition a été marquée par la présence de plusieurs officiels de la 33e région militaire de forces armées de la RDC. Ernest Mouero Achisadou, au Sud Kivu, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Afrique du Sud demeure le pays du continent qui recense le plus grand nombre de cas de coronavirus, avec 19 000 personnes testées positives. Le confinement, en place depuis 2 mois, a de lourdes conséquences sur l'économie. Parmi les secteurs les plus touchés, celui du tourisme, un secteur qui représente environ 9% du PIB et qui est un gros pourvoyeur d'emplois. De Johannesburg, le reportage de Patricia Huon.
Un éléphant traverse la route. La guide Hélène Martin s'arrête le véhicule et lui cède le passage.
Alors, il y a un éléphant, c'est un mâle qui bouge sur la route, qui va vers nous. Alors on va juste se mettre sur une route ici pour ne pas être dans son chemin.
Marataba, un lodge de luxe et une réserve animalière dans le parc national de Marakele, à 4 heures de route au nord-ouest de Johannesburg, se trouve dans un décor magnifique au pied de montagnes rougeoyantes. Il abrite des éléphants, des lions, des rhinocéros, des girafes, mais pour l'instant, aucun visiteur humain pour les voir dans leur savane.
La première semaine, c'était chouette, parce qu'en gros, on a profité de la réserve juste pour nous, pour faire ce qu'on voulait faire, mais nos touristes nous manquent. On aimerait travailler, quoi. On aimerait être guide. Et puis forcément, financièrement, c'est pas facile non plus pour nous tous.
En Afrique du Sud, les frontières sont fermées, les vols annulés. Tous les hébergements qui n'accueillent pas de travailleurs essentiels ont dû cesser leurs activités. Une situation qui va avoir un effet désastreux sur l'industrie du tourisme, constate Robert Moore, directeur du groupe auquel appartient Marataba.
Nous attendions à une bonne année, puis en mars et en avril, nous n'avons rien gagné. En mai, nous n'allons rien gagner en juin non plus, et on se dit que ce sera toujours pareil en juillet. Nous espérons seulement pouvoir rouvrir pour les clients locaux dans le dernier quart de cette année. Septembre, octobre, novembre, pour le marché international, nous n'espérons rien avant décembre.
Beaucoup d'agences de voyage n'osent même pas espérer le retour des groupes de touristes internationaux avant l'année prochaine. Les conséquences risquent de se faire sentir sur le long terme. Le secteur du tourisme emploie 1,5 million de personnes en Afrique du Sud, un pays avec un taux de chômage de presque 30%. Nérine Madden, manager du lodge.
Les pertes sont énormes et nous avons entendu parler de cas où des employés ont été traités de manière vraiment injuste. Ils ont été renvoyés immédiatement sans aucune compensation. Dans notre société, nous avons tous accepté une réduction de notre salaire afin de tenter de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'argent pour maintenir le business encore un peu et que tout le monde ait encore un emploi quand tout cela sera terminé.
C'est pourtant la haute saison en ce moment en Afrique du Sud pour les safaris, mais le retour des touristes semble encore lointain. Patricia Huon, de retour du parc national de Marakele pour VOA Afrique.
Salut l'artiste Mori Kanté, décédé ce vendredi à l'âge de 78 ans. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Lionel Dalima et Georges Léonard Samio. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'est déjà d'arrêter le micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. A très bientôt, prenez bien soin de vous. We'll be right back.